Bonjour, je suis Sabine. Accompagnée de Clara, Alice et Thomas, nous animons le podcast « Repère-moi si tu peux ». « Repère-moi si tu peux » est une balade auditive à travers Paris et le cinéma. Avec l'aide de membres de l'équipe d'un film, nous revenons sur la constitution des décors et les choix de lieux de tournage. Qu'est-ce que les films nous disent de Paris? Pourquoi avoir filmé ce monument et pas un autre? Que raconte un lieu? Partons ensemble à la découverte du Paris des films. Repère-moi si tu peux, c'est également une carte interactive qui référence les lieux de tournage abordés au cours des entretiens et propose des parcours dans les rues parisiennes. Retrouvez l'ensemble des épisodes et des cartes interactives sur notre site repère-moi-si-tu-peux.com. Donc aujourd'hui, on est avec Lionel Guérini, qui a notamment travaillé sur La Vérité de Kore-eda, Le Mystère Henri Pic de Rémy Besançon, Réparer les vivants de Catel qui les verrait, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu de Philippe de Chauvron, et Gainsbourg, Vie héroïque de Johannes Pfaar. Donc on va déjà commencer par une question assez classique, je dirais, qui est donc, quel a été ton parcours et comment en es-tu arrivé à exercer ce métier?
Au départ, j'ai fait des études de cinéma à Montpellier, et je voulais réaliser des films, comme beaucoup d'étudiants. Et finalement, à la fac, on a beaucoup de savoir et pas de savoir-faire. Donc quand j'ai débarqué à Paris, j'avais pas vraiment de métier en main. Donc j'ai un peu touché à tout, sur des plateaux, conduire des camions, faire un peu l'électro, des fois l'accessoiriste, aider l'accessoiriste, faire du casting. Et puis à un moment donné, on m'a proposé de faire du repérage. Et ça avait l'air d'être un travail qui s'accommodait à mon tempérament. Et comme il fallait gagner sa vie, j'ai découvert ce métier. Je ne voulais pas être repéreur au départ. Alors après, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui expliquent cela. C'est que en étant voulant réaliser, d'avoir cette frustration de ne pas forcément y arriver... Il fallait que je crée quelque chose, que je produise quelque chose. Et faire un film, c'est quand même... Je réalise encore des courts-métrages à côté, mais le dernier, j'ai mis 10 ans à le faire. Donc c'est pas satisfaisant, j'ai besoin de créer tous les jours. Et je me suis aperçu qu'en faisant des repérages, je pouvais faire peut-être, comme on fait des photos, je pouvais faire peut-être une photo pour moi par jour. Et j'avais pas de... Il n'y avait personne qui intervenait. Et donc du coup je photographie des décors, et pendant qu'on paie pour trouver des décors, je dis tiens, ce cadre me plaît, je fais une photo pour moi. Donc c'est pour ça que je pense que j'ai fait du repérage. Il y a un côté très créatif dans notre métier qu'on ne nous reconnaît pas, évidemment, puisque c'est pas nous les créateurs, mais on nous demande pas seulement de chercher des décors, c'est d'une idée qui est abstraite, d'en faire quelque chose, de le transformer en quelque chose de concret, de faire des propositions, peut-être de trouver des lieux qui ne sont pas le décor imaginé, mais arriver à le détourner pour l'imaginer comme un décor de cinéma.
Quelles sont les demandes qu'on peut recevoir en tant que repéreur de la part du réalisateur? À quoi ça ressemble concrètement?
Alors, on part d'un scénario, donc il faut lire le scénario, donc on imagine... l'histoire, on s'imagine notre propre idée du film, et vous avez des réalisateurs qui peuvent peut-être vous expliquer ce qu'ils veulent réellement, et puis vous avez des réalisateurs qui expriment quelque chose, en fait ils savent pas, ils ont pas encore réfléchi à ça. Donc ils vous demandent de proposer des choses finalement. Avec Google, vous tapez une image, vous dites mais tu vois, ça existe. Mais la réalité, c'est pas ça, en fait. Donc, tout change tout le temps. Donc, on n'a pas forcément des catalogues prêts. Vous aviez des endroits en jachère, il n'y en a presque plus. En plus, avec le Nouveau Paris, avec les JO, tout disparaît. Et puis, la région parisienne. Et on a souvent... les réalisateurs ont une idée un peu pas passéiste, mais... C'est toujours en décalage avec le réel. La culture américaine nous a totalement colonisés. Et souvent, on me demande les jeunes réalisateurs des décors américains. On est à Paris. Donc après, eux, c'est pas leur problème. C'est leur demande. La production, où elle leur trouve un studio, mais il n'y a pas de studio. Donc il va falloir leur trouver des choses qui n'existent pas, quoi.
En t'entendant, ça me rappelle ce que tu avais dit tout à l'heure, je crois, en off, sur le fait... Non, c'était pas du tout en off, d'ailleurs, c'était il y a 5 minutes, même pas, sur la part de créativité. Et ça me donne vraiment l'impression que le repéreur, il est vraiment comme un lien entre la création du réalisateur, du scénariste, etc., et la réalité du terrain, de comment est-ce qu'on va faire dans la réalité et pas dans un monde d'idées un peu abstraites.
Tout à fait. Donc oui, on fait le lien entre... Et on est le premier lien avec cette réalité, comme j'avais un professeur qui me disait quand j'étais à la fac, il y a le film qu'on écrit, le film qu'on imagine, le film qu'on écrit, le film qu'on tourne et le film qu'on monte. Donc nous, on est le premier lien avec le film qui est, on va dire, imaginé et écrit. Voilà, on va faire un seul. Et il faut qu'on trouve, et face à des... face à une réalité de la pression immobilière, on ne sait pas partout, mais en tout cas, moi, je parle de ce que je connais le plus, c'est en Île-de-France, où le cinéma est de moins en moins désiré, puisqu'il y a de plus en plus de tournages, et très longtemps, le cinéma, c'était quand même... un cinéma, en tout cas en France, hérité de la nouvelle vague, qui se voulait un peu artisanal. Et là, avec l'arrivée des séries, on arrive dans un cinéma totalement industriel. Et la France a pas vraiment de studio encore, mais ça va arriver dans pas longtemps, parce qu'on dit que les studios, c'est trop cher, mais quand on aura des séries qui tournent en permanence, les studios seront totalement... rentabilisé, puis ça va dans le sens de l'histoire. Paris veut plus de camions, c'est un pari pour les touristes, c'est un pari, c'est pas un pari où on va faire des films. Donc il y aura quelques films iconiques, mais la plupart des films devront se tourner en studio, et les pauvres petits films, ils vont peut-être disparaître, je sais pas comment ils vont faire. En tout cas, notre métier en ce moment, depuis, on va dire, les premiers temps du Covid, a totalement explosé. Enfin, ça avait commencé, mais les plateformes ont pris une telle place qu'on a besoin de repérage, de repérage, de repérage. Mais je pense que ça va se resserrer petit à petit, et il y aura moins de repérages, parce qu'on va tourner beaucoup en studio.
Concernant du coup la vérité de Kore-eda, comment est-ce que tu es arrivé sur ce projet? Parce que je me pose la question parce que c'est un réalisateur étranger. Comment est-ce que ça s'est passé?
Alors je sais pas du tout comment ça s'est passé, parce que c'est une productrice qui m'a appelé, on lui avait donné mon nom, et je connaissais pas très bien le cinéma de Kore-eda, et depuis j'ai vu beaucoup de ses films, et j'adore ce qu'il fait. Mais bon, c'était très compliqué, parce que c'est un réalisateur qui parle pas français, qui est très en retrait, mais qui a l'air, le peu que j'ai vu, qui a l'air extrêmement... il est extrêmement touchant. Il faisait arrêter, on était en repérage, il s'arrêtait pour aller chercher des cadeaux pour ses enfants... Et en fait, il y a beaucoup d'enfants dans son cinéma, donc vous avez tellement de réalisateurs qui bidonnent, qui se font passer pour, et qui sont pas, quoi, puisque de toute façon, le cinéma, c'est quand même, c'est comme le théâtre, c'est on revêtit un costume et on fait croire qu'on est quelqu'un de populaire alors qu'on n'est pas du tout comme ça. Et lui, il avait l'air assez en accord avec son cinéma. Mais je lui ai pas parlé, parce que il y avait la barrière de la langue, il y avait toujours un interprète. J'ai fait des repérages où il avait, parce qu'en fait leur pari, c'était qu'il fasse un film en France, mais il connaît pas du tout la culture française, donc il avait besoin de s'imprégner. Donc j'ai fait des repérages pour lui montrer ce qu'on pouvait, ce qui pouvait exister comme décor. Donc on a fini dans une maison dans le 13e. Et en fait, on m'a fait aller parce que la production, c'était la production de Bruno Dumont. Donc ils avaient beaucoup de connexions avec le nord de la France. Donc ça pouvait être la Picardie, puisque les Hauts-de-France, c'est la Picardie. Donc j'ai eu de la chance d'aller dans des endroits où on m'a laissé carte blanche et découvrir des choses. Mais au final, Catherine Deneuve a sifflé la fin de la récré parce qu'elle a dit « Moi, je veux pas faire une heure et demie de voiture matin et une heure et demie le soir. » Donc voilà, ils ont trouvé la maison dans le 13e, elle habite dans le 6e.
Alors ce serait quoi ton vœu le plus cher? Pour te remercier, je vais l'exaucer.
Être actrice.
Je m'en doutais.
Ding ! Dieu pourra le faire.
Ouais, je suis sûre que tu seras une très bonne actrice.
Ah bon?
Bah oui, même sans pouvoir magique. Mais c'est normal, tu sais, c'est ma petite fille.
Mm-hmm. Ce que j'aime dans ce travail, c'est que des fois, on vous laisse carte blanche. Ça m'est déjà arrivé sur un film pas très intéressant, mais à un moment, je me suis retrouvé, je vais chercher dans les Pyrénées, puis d'un coup, on m'a demandé de passer la frontière, et je me suis mis à chercher des déserts en Espagne. Et finalement, à un moment, ils ont dit non, mais on va les tourner au Canada, parce que le financement est beaucoup mieux. Mais d'un coup, je me suis mis à chercher des choses qui étaient totalement inutiles, mais j'ai fait des super photos. Pour moi, c'était formidable.
En voyant le film, j'étais un petit peu surprise du choix du quartier Arago, qui est pas très loin, qui est pas un quartier très touristique, voire même pas du tout, c'est très résidentiel.
Oui.
Et donc je me suis demandé pourquoi en particulier ce quartier, pourquoi pas un endroit presque plus emblématique de la ville, ce qui fait un lien avec une autre question, de est-ce que, étant un réalisateur étranger, est-ce qu'il avait peut-être en tête une certaine idée un peu d'un Paris rêvé, ou justement, ou c'est pas ça forcément qu'il voulait filmer, puisqu'il s'est plutôt dirigé vers un quartier résidentiel.
Non, en fait, ce qu'il voulait filmer, c'était... je pense qu'il s'inspirait beaucoup de la vie de Catherine Deneuve. Il voulait une actrice qui avait un peu vécu, mais qui s'était retirée dans une maison et qui vivait un peu en vase clos dans cette maison. Donc c'était une maison qui n'était pas un château, mais qui était une très très grosse maison bourgeoise à la campagne. Et finalement, on se retrouve, d'ailleurs on le voit, la maison n'est pas assez large, ils ont des plans hyper serrés parce qu'ils n'ont pas de recul. Cette maison, elle est en agence de repérage, donc elle se loue. Mais vous avez plein de maisons de... Parce que pour avoir une maison comme ça, il faut être très très riche à Paris. Avoir cet espace, et même si vous n'avez pas le recul, ben c'est quand même... ce petit espace étroit, ben c'est quand même... faut être très très riche ou avoir hérité de ça, ou votre famille a été très très riche. Donc les gens très très riches ne vous laissent pas rentrer chez eux à Paris. Voilà. Parce que le cinéma, c'est des emmerdeurs. Et ils arrivent à 40, ils vous envahissent, ils se croient chez eux, ils peuvent être impolis, parce que c'est leur lieu de travail, donc ils en oublient que c'est votre intimité, enfin voilà. Et donc des gens qui n'ont pas besoin d'argent, et qui sont pas fascinés par cette magie du cinéma, donc ils vous laissent pas rentrer, donc voilà, il faut trouver ce lieu-là à Paris.
Est-ce que le travail est différent en fonction de l'origine de l'équipe? Je m'explique. Peut-être que
forcément. Le travail est différent. Quand vous avez vous tournez avec des Indiens ou avec des Chinois, bah ils ont une idée de la France, donc ils vont vous demander ces plans de cartes postales. Et puis moi j'appelle ça, il y a des décors, c'est des attrape-tournages. Vous les montrez à n'importe quel réalisateur, il veut tourner dedans.
Comme quoi, par exemple?
Je pense à un escalier qui est à Fontainebleau quand je faisais les repérages de Vidocq. Donc c'est un escalier en colimaçon qui est derrière, enfin que le public n'a pas accès. Et je dis à la personne qui me fait visiter, il n'était pas du tout dans la séquence, je dis, vous allez voir qu'ils vont vouloir tourner dans cet escalier. Je dis, ça s'appelle un décor attrape-tournage. Et ça n'a pas loupé. Du coup, le réalisateur a voulu créer un plan pour avoir cet escalier. Mais c'était évident. Et du coup, je commence à avoir l'habitude de tous ces... Parce qu'en fait, un décor, c'est comme une personne quelque part. Il y a une photogénie. Vous avez des gens très beaux, mais devant une caméra, ils rendent rien. Et il y a des gens tout à fait quelconques dans la vie de tous les jours, et vous les prenez et ils dégagent quelque chose. Et les lieux, c'est pareil. Vous avez dit, waouh, c'est super. Et en fait, c'est paf. Et déjà, vous avez une première idée, c'est en le prenant en photo, il y a quelque chose qui ne va pas, la circulation, et c'est pareil. Donc, il y a des endroits qui ressemblent à rien, et quand vous les prenez en photo, il y a quelque chose qui se dégage, et des endroits qui sont très beaux, et vous les prenez en photo, et il n'y a rien qui se dégage. Donc voilà, donc avec le temps, je me dis, ça, c'est des... C'est des... Et quand j'ai des réalisateurs qui se la racontent, qui veulent ouais, le truc original, le machin, on va faire du cinéma graphique, eux, ils vont tout de suite dans les décors à trappe-tournage.
The house looks like a castle.
Je connais pas le découpage à l'avance. Le réalisateur l'a même pas. Et justement, le décor naturel, c'est qu'on va s'adapter aussi à cet endroit. Mais on va pas tourner dans son 60 mètres carrés. C'est toujours, on tourne toujours dans des minimum 90, 100 mètres carrés. J'ai travaillé pour une série sur Netflix l'année dernière, à la même époque. La réalisatrice, elle voulait qu'on tourne dans une... C'était une coloc de filles. Elle voulait qu'on tourne dans une cité HLM... Pas la cité de banlieusard, mais on était à Belleville, donc il y avait une espèce de contemporain avec au fond, l'église de Belleville, enfin, les choses étaient assez jolies. Et puis c'était tellement réel, mais là, la directrice de prod m'a dit, mais comment tu peux nous trouver des décors qui nous coûtent aussi cher? Parce que justement, il y a l'appart, mais il faut trouver autant la part du dessus, la part du dessous pour stocker... l'équipe, parce qu'il n'est pas assez grand pour pouvoir avoir le recul. Pour la déco, ça coûte cher parce que l'appart était, je sais pas, au 10e étage. Donc c'est pas c'était pas pratique du tout en fait. Mais c'était super réaliste. Là pour le coup, on y croyait. Quand je vous parlais tout à l'heure, je vais en Espagne, je vais au fin fond de la Picardie, mais c'est souvent, on me rappelle à l'ordre, on me dit non, mais si vous tournez un petit peu en province, vous ne pouvez pas aller tourner très loin du TGV, parce que les gens ils veulent rentrer à Paris, ou à Paris, ils voudraient que tous les décors soient dans le centre de Paris, parce qu'on ne veut pas aller au fin fond de la banlieue parisienne, comme Catherine Deneuve, vous voulez pas faire une heure et demie de voiture le matin, une heure et demie le soir, dans les embouteillages. Donc il faudrait trouver, il faudrait aller au bureau, mais en bas de chez eux, quoi. Le studio doit être en bas de chez eux. Je sais que sur Suzanne, Catel m'avait demandé, j'avais fait des repérages à Marseille, j'avais trouvé un petit appart, parce qu'elle trouvait que c'était hyper réaliste. Et il s'est trouvé que... Bah en fait, ça arrive pas souvent parce que quand vous êtes le repéreur, une fois que le repérage est fini, vous n'avez plus de connexion avec le film. Si toutefois, le décor que vous leur avez trouvé ne marche pas et qu'il change de décor, vous ne le savez même pas, vous allez le découvrir. On ne vous fait pas de feedback. Donc, vous ne savez pas comment ça s'est passé. Et là, pour une fois... Le photographe de plateau n'était pas disponible la première partie du film, donc j'étais à Marseille avec eux, et donc j'étais dans ce petit appart. Qu'est-ce que je les ai entendus râler, dire mais punaise, on peut pas tourner ici, c'est pas possible. Donc moi, je faisais tout petit dans les sous, et Catel qui avait dit c'est cet appart, une fois qu'elle a tourné dedans et qu'elle a vu qu'elle pouvait pas faire tous ses plans, que vous tournez une demi-heure dans un petit appart, oui, mais si vous tournez deux jours, au bout d'un moment, c'est pas possible. Sur le film de Vidocq, on cherchait des rues de Paris, et comme les, ça se passe donc à l'époque de, du Premier Empire, c'est avant Haussmann. Il n'y a plus, pas, pratiquement plus, ce Paris n'existe plus. Et donc il fallait trouver un terrain où il pouvait poser des pavés. Et ça m'est venu tout de suite, donc de toute façon j'ai pas proposé, et donc on travaillait avec Fabienne, ça m'est venu tout de suite sur le salon des lieux de tournage. J'avais rencontré une personne de l'Essonne qui m'avait dit oui, on va récupérer une base militaire et on va vous pourrez tourner là-bas. Et du coup, juste à, en suivant, je travaillais sur le film de Sarah Forestier et elle voulait faire des courses de voitures, donc j'avais pensé à cet endroit. Et le monsieur m'avait dit non, non, c'est pas possible en fait, on n'arrive pas encore à le récupérer. J'avais appelé l'armée parce que ça appartenait à l'armée. Parce qu'en plus, il y a encore un bout de c'était une base, un aérodrome, et à côté, il y a une base. Avec des virus, c'est une base militaire où ils travaillent sur des virus, c'est une base très très protégée. Et donc, la personne de la com de l'armée, ça a duré un mois, deux mois, j'arrivais pas à savoir si je pouvais, on pouvait récupérer cet endroit. Mais j'avais quand même gardé le contact. Et quand j'ai commencé Vidoc, j'ai appelé ce monsieur deux ans après. Et je ne suis pas tombé sur lui, je suis tombé sur une dame. L'après-midi, je visitais la base, parce qu'il l'avait finalement récupérée. Et depuis, donc ils ont fait ce qu'on appelle un backlot, c'est les rues. Ils ont tourné un bout de Eiffel. Vous avez un pied de la tour Eiffel. Et ils ont tourné Astérix. Ils sont en train de faire des grands... l'endroit où il y avait la tour de contrôle, il y avait plein de bureaux, ils sont en train d'en faire des loges. Et donc quand vous avez des studios, il faut le backlot et des grands cyclos pour l'intérieur et l'extérieur. Donc ils vont petit à petit, ils vont construire. Mais personne n'est content parce qu'ils trouvent ça trop loin de Paris en fait. Ils voudraient pouvoir tourner. Ils voudraient tout pouvoir tourner à Saint-Ouen, mais c'est pas possible. Là, vous avez un lieu qui s'appelle Kien, qui est une ancienne usine à Colombes. Longtemps, ça a été des faux commissariats, des prisons, des morgues. Vous avez un monsieur qui a racheté ça, un marchand de biens, et il va tout raser pour en faire des logements, parce que c'est beaucoup plus rentable. Donc il se retrouve à Brétigny, et il trouve ça trop loin. Et je connais un autre... une personne qui loue qui trouve des endroits en friche, qui loue, qui essaye de faire ses studios près de Marne-la-Vallée. Mais voilà, c'est comme je vous dis, ça va arriver parce que on est à une période charnière où les studios vont commencer à émerger, parce qu'avec toutes ces séries, le cinéma français n'est plus un cinéma artisanal, et puis le sens de l'histoire va pas dans ce sens-là. On veut plus des camions qui bougent tout le temps, c'est polluant, ça tient de la place, les gens veulent récupérer la ville. Pompidou, on voyait Paris comme une autoroute, et ben non, on est dans autre chose. On veut pouvoir, les piétons, on récupère la ville.
Merci Lionel. Nous remercions Radio Campus Paris de nous avoir prêté son studio d'enregistrement. Merci Gouacha de nous avoir laissé utiliser votre musique. Nous remercions également Léa qui a réalisé plusieurs de nos épisodes. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre site internet repère-moi-si-tu-peux.com. Vous pourrez trouver tous nos épisodes et également toutes les cartes interactives que nous avons créées. À bientôt pour un prochain épisode de Repère-moi-si-tu-peux.